Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
Voilà. Non mais c'est le gros coup de la soirée la Géorgie, sincèrement, cette équipe qui a souffert pendant les trois matchs avec un gardien Mamardashvili qui est énorme, qui est pour moi avec
le meilleur gardien de l'Euro pour l'instant.
Le meilleur gardien de l'Euro, ouais. Avec Donnarumma un petit peu en dessous, mais il a encore fait des arrêts monstrueux aujourd'hui. Déjà contre la République tchèque, il avait été énorme, et puis notre petit Miko Tadze devant qui est encore très très efficace. Gvara qui avait été décevant sur les deux premiers matchs, qui a fait un match extraordinaire du cœur. Ils sont dans le dépassement de fonction perpétuelle, ils ont subi, hein, parce que tu t'appelles la Géorgie et que tu joues quand même le Portugal, mais les voir passer comme ça, on parle souvent de l'Euro à 24, des inconvénients, des avantages, c'est vrai que le niveau il reste fluctuant, mais quand tu vois leur joie à la fin du match, c'est leur premier Euro, ça reste quand même très belles histoires et c'est magnifique.
Après, les belles aventures, sans rien retirer à la Géorgie, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, les belles histoires sont également favorisées par la formule, parce que tu te retrouves avec une équipe du Portugal qui n'a rien a joué pratiquement, et je dis toujours que dans le sport, quand la défaite n'est pas rédhibitoire pour toi et qu'elle ne t'élimine pas, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est pour moi bloquant pour l'analyse de la performance de celui qui est dans cette position-là. Quand la défaite ne t'atteint pas, tu ne peux pas donner le maximum de toi-même. Et je pense que les Portugais, d'abord, ils avaient fait tourner, et deux, déjà qualifiés.
Après, il fallait les taper hein, quand même, le Portugal, ce soir.
C'est pour ça que je vais arriver à la Géorgie, je ne retire rien. Les belles histoires sont également favorisées par le contexte.
Sur la
proposé.
Formule à 24, c'est intéressant ce que tu dis, mais à 16, il y avait aussi des équipes qualifiées après deux matchs, qui jouaient un match qui servait à rien, ou au moins uniquement la première place.
Oui, non, mais sur les formules de poule, je dis.
Oui,
les poules te permettent, et puis là, quand t'es troisième, tu passes. Là, ils sont troisième, oui. À la Géorgie. On est heureux, c'est une magnifique histoire, et c'est pour ça que je dis que cette formule à 24 avec les meilleurs troisièmes, elle a quelque chose qui au fond peut être très séduisant, quoi, parce que ça te donne l'opportunité de découvrir des joueurs, c'est magnifique.
Il y a des avantages, des inconvénients.
Bon. Je sais pas si vous y avez pensé pendant le match, un peu moins vers la fin, mais on était au milieu du match, j'ai repensé à Portugal-Maroc de la Coupe du Monde, parce que la Géorgie s'était plus ou moins disposée de la même façon. Ils ont marqué vite.
Avec un très beau but en transition.
Ensuite, ils ont tenu. Il y a des très beaux joueurs dans la sélection du Maroc. Il y en a également dans cette sélection-là. Et tactiquement, c'était grosso modo la même proposition. Et Miko Tadze et Gvara sont de très bons joueurs, tous les deux. Et ils ont plus ou moins fait la même chose. Peut-être même que la Géorgie, à un moment dans le match, a même proposé un peu plus de jeu que le Maroc en avait proposé contre le Portugal.
Après,
à la Coupe du Monde.
C'était deux contextes différents.
Mais c'est des choses qui se ressemblent.
Quart de finale de Coupe du Monde.
Et où j'ai vu un Portugal, de la même façon, emprunter, avoir beaucoup de mal. Bon, on va dire beaucoup d'équipes ont du mal contre les blocs bas comme ça, à contourner, à pas mettre de rythme, à pas accélérer. Mais les Portugais ont toujours beaucoup de mal quand c'est comme ça.
Ça tricote, mais tu sens qu'il y a un manque d'impact. Et après, tu tombes sur aussi un très très bon gardien ce soir. T'avais le sentiment que la victoire n'était pas impérative pour le Portugal avec une grosse revue d'effectifs. Et quand tu vois certaines individualités ce soir, Antonio Silva notamment, qui est un jeune joueur portugais qu'on avait découvert un petit peu contre le PSG il y a deux ans où il avait été très très bon, mais cette année il passe complètement à côté. Il y a eu en fait l'assemblage de deux objectifs bien différents, et la Géorgie a très très bien joué le coup. Il y a un milieu de terrain, la Kochorashvili, qui joue en Espagne, qui fait lui aussi un très très bel rôle, numéro 6. Voilà, il y a un truc assez cohérent, une ligne directrice, et puis tu as les deux de devant là, Gvara et Miko Tadze, qui à chaque fois qu'ils ont des situations avec un peu d'espace, ils te font la différence. Donc bravo à la Géorgie. Et puis le match contre l'Espagne va être intéressant, parce que tu parlais du Maroc Portugal.
C'est ce que j'allais enchaîner. enchaîner là-dessus en disant ça ressemble à ça. Ils sont capables de les emmerder de la même façon. L'Espagne, on l'a assez dit ces derniers jours, a évolué notamment grâce à ces deux joueurs de percussion sur les côtés qui permettront probablement de percer plus cette défense. Mais oui, et la Géorgie, elle a également montré quelque chose qu'on n'a pas vu dans les derniers matchs où on s'est un peu ennuyé. et c'est quand même très agréable de voir ça sur quand tu regardes un match et que t'es neutre comme ça, c'est la générosité, la détermination, comme tu appelles ça, le dépassement de fonction. Mais bon, voilà, c'est aussi la base du sport de haut niveau, quoi. Tu te défenses sur le terrain, tu donnes tout, t'as l'impression que les joueurs sont à bloc entre eux, à bloc avec le coach. Il y a une unité quand tu fais la différence avec ce que tu vois de la Belgique, de l'Angleterre, parfois même de la France. Tu dis, bon, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire sur le terrain? De toute façon, c'est simple, hein, y a un élément qui trompe pas. Tu regardes à la fin les kilomètres parcourus. Après, tu analyses la tactique, y a des joueurs de talent, il y a des joueurs capables de frapper, de dribbler, de faire des bonnes passes et tout. Évidemment, tout ça, c'est
encore... Et est-ce que aussi, il y a déjà une fraîcheur
base,
physique?
Il y a une base quand même.
Il y a une fraîcheur physique peut-être chez ces joueurs que tu n'as pas sur.
Ah, ils jouent tous des championnats.
Oui, mais tu vois, par exemple, Miko Tadze, les six premiers mois, il joue pas à l'Ajax. T'as des joueurs quand même qui sont pas dans les plus grands clubs tu vois, quand tu vois Bellingham
il est évident que dans ces tournois, le côté athlétique, la fraîcheur physique, ça compte beaucoup. Mais quand tu vois les Anglais, c'est l'impression qu'ils te donnent, c'est ils sont fatigués pas ou que. Ils veulent même pas courir, ils veulent pas se défoncer.
Pas que, mais je vois quelques, et je parle pas que de l'Angleterre, mais chez les gros notamment, il y a 2-3 signaux chez certaines stars qui m'inquiètent un petit peu moi. Mais après, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir sur le Portugal, parce qu'il faut parler
du. Bah allons-y. Maintenant, on a dit beaucoup de bien de la Géorgie. On aura peut-être des réactions dans la soirée.
Le Portugal, globalement, fait une phase de poule très correcte avec ses 6 points avant ce match-là, qui restera quand même anecdotique parce que tu as fait une grosse revue d'effectifs et hormis Ronaldo et peut-être Dalot sur le premier match et le gardien, ça a fait énormément tourner. Mais moi, le Portugal, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que j'ai peut-être choqué, hein, mais que leur phase de poule, elle est un peu surcotée.
J'ai dit ça hier. Tout le monde m'a dit, ils ont fait deux matchs. J'ai dit le premier match, j'étais pas content. Oui. Le deuxième m'a plu.
Oui, mais le deuxième, il est bien. Mais je le trouve surcoté, le deuxième. Parce que t'as un deuxième but turc qui a 1-0. Les Turcs se mettent un CSC tout seul. Et je trouve qu'ils ont quand même concédé. Donc ils sont là.
Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a tellement de qualité dans cette équipe.
Exactement.
Que j'étais toujours en train de dire
venir.
Cette qualité va faire la différence. Ça va venir. Mais eux, on est typiquement dans le fameux cas de figure dont on parle très souvent. Ou de la technique, des stars à tous les postes, mais attention, il leur manque les fameux deux joueurs que l'Espagne a.
Ouais, et surtout,
ils ont du mal,
changement de rythme.
Et en plus, avec Cristiano qui monopolise le poste devant.
Il est mieux Ronaldo, parce que moi en 2022 j'avais beaucoup critiqué.
Ils ont du mal les Portugais, il leur manque ces joueurs là.
Mais un Leao normalement devrait être ce Nico Williams et il le fait très peu.
Leao, il faut qu'il ait l'espace.
Exactement,
parce que quand
il
est phase arrêtée avec bloc bas, il avance pas.
Il l'avait un peu
et il dribble pas du tout comme Lamine Yamal et comme Nico Williams. Il a beaucoup plus de mal sur phase arrêtée.
Il l'avait fait un peu contre la Turquie, mais je trouve quand même que faut rappeler qu'ils sont menés 1-0 contre la République tchèque, qu'ils marquent un CSC sur ce match-là, enfin que la République tchèque concède un CSC, tu marques à la 93e minute. Et le match contre la Turquie, moi j'ai trouvé, sur attaque rapide, ils ont fait la différence, t'as eu une certaine efficacité, tu mènes 3-0 à la 60e minute. Mais pour ceux qui ont véritablement regardé le match, et si on gratouille, moi je trouve que c'est pas dingue non plus par rapport au réservoir que t'as, par rapport aux joueurs que t'as.
Le sentiment que tu peux mieux faire, il est là.
Alors peut-être qu'ils iront au bout, hein, parce qu'ils ont les joueurs pour. Et que là, ils ont Slovénie, France, Allemagne, Espagne, donc ça va être quand même ça va pas être simple pour eux. Mais moi, leur phase de poule, je suis pas totalement satisfait malgré le fait qu'ils soient premiers de cette poule.
Et dans ma liste, tu sais, d'ailleurs quelqu'un.
Mais après, c'est le cas pour beaucoup d'équipes.
Un auditeur très sympa m'a fait la liste, tu sais, les fameux joueurs de côté des 10 dernières années là.
Oui.
On en a encore vu un là, hein, Jean-Félix, 100 millions. Voilà, on a acheté.
Après, je sais pas, toi, Jean-Félix, tu le mets joueur de côté.
Bah, quand il arrive, quand on le découvre et tout,
il est plus 10 à Benfica. Il est 9,5. Je le mets 9,5, moi, Jean-Félix.
Il arrive dans sa catégorie. Il entre dans la catégorie des mecs qui vont jouer dans un 4-3-3 en haut à gauche ou en haut à droite. C'est là qu'il a tout le temps été placé, en tout cas, la plupart du temps. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est probablement pas là qu'il est le meilleur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il est le meilleur.
Pour moi, c'est un 9,5.
Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est très difficile de jouer avec lui.
C'est comme ça qu'il gagne le titre.
Tous ces joueurs-là, toute ma liste, sont des mecs qui posent problème au final et qui sont très durs à faire jouer.
Ouais.
sauf quand ils sont en jambes.
Mais après,
au début, et qu'ils sont capables de faire des diffs, des frappes. Qui... Tu te rends compte l'argent qui est mis sur ces joueurs-là?
Ouais, mais ils marchent à la dynamique, ces ailiers. Et après, moi, je suis désolé, mais mettre des milieux de terrain sur les côtés.
Je vais trop trouver ma liste.
Milieux de terrain sur les côtés, quand tu vois les matchs de l'Espagne, tu te dis que les ailiers dans le football moderne, c'est quand même très, très important. Alors, ouais, ils font mal à la tête. Tu vois, par exemple, Doku, qui a fait un super match contre la Roumanie, là, aujourd'hui, il m'a fait mal à la tête. Mais ça reste des mecs déstabilisateurs et qui permettent quand même d'avoir sur attaque placée des différences, parce que quand tu vois ça, certains qui se regardent, c'est compliqué.
Hein. Elle est longue la liste. Hein. Vas-y. Bon, tu vois. Donc ils sont pas tous au même niveau, hein, mais c'est des gars qui à un moment ont une hype, ouais. Et des gars qui ont été cotés et qu'on a voulu dans les clubs. Hein. Donc c'est pas ordre alphabétique, hein, c'est pas que je veux commencer par lui. Donc Alan Saint-Maximin, Guiri, Ansu Fati, Anthony Martial, Anthony.
On rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas tout suivi.
Les joueurs à un moment sur qui on a mis beaucoup d'argent et qui ont les attaquants cotés, qui depuis 10 ans dans le foot sont
sur
les joueurs recherchés.
Sur le côté ou côté en termes de prix?
Non, c'est attaquant de côté, ouais, pas les 9, okay. Dans la catégorie 7-11, oui, quand on faisait les chapeaux, tu vois.
Martial est un peu plus axial pour moi. Mais oui, au début...
Martial, quand il arrive, on le prend à Manchester, c'est quand on met les 80 millions sur lui, c'est pour qu'il aille dans un 4-3-3 sur un côté.
C'est vrai.
En fait, après, le fait qu'il pose problème ou qu'on se demande réellement où, ça c'est encore autre chose. Mais au début, c'est un attaquant et c'est pas un 9. Mecs-là ont été recherchés. Donc après, j'ai encore Danjuma, Pulisic...
Oui.
Coutinho, David Neres, Dembélé,
oui.
Diogo Jota,
ouais, plus 9 pour moi.
Berardi,
oui.
Y avait Draxler, bien sûr. Il y avait Bernardeschi, Chiesa, Felipe Anderson, Ferran Torres, Thauvin, Martinelli.
Bon, le Portugal, les gars. Après, parce que sinon ta liste, elle peut être très longue là.
Elle est très longue, mais je t'assure que c'est que des mecs qui ont été hyper cotés et qui ont fait des carrières très bizarres.
Décevant.
Et là, il y a encore Grealish, t'as encore Ressé.
Après, Grealish et Ressé.
Dans un instant, Vincent, au 32-16 supporters portugais.
C'est vraiment très, très décevant.
Beaucoup de choses à dire sur Grealish, Portugal dans quelques instants. Ici, avant de passer à la Belgique et à l'équipe de France.
Il a réussi, là, bah, oui. La carrière. Regarde, Grealish, c'est déjà fini. Oui.